France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Christiane Macellaro. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Allo Maud chanter À te voir. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier avec une réécoute de l'épisode du 22 février dernier, dans lequel Marie nous faisait visiter l'Artothèque de Caen, ce lieu où on emprunte des œuvres d'art comme on emprunte des livres dans une bibliothèque. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Christiane Macellaro.
Bonsoir.
L'Orchestre National de France fête ses 90 ans, vous en êtes le directeur musical et pour cet anniversaire vous dirigez une série de concerts qu'on retrouve au fil du temps sur l'antenne aussi de France Musique. Le prochain concert c'est ce samedi 30 mars dans l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous dirigerez le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel, les Oiseaux exotiques d'Olivier Messiaen, la Symphonie en ut de Georges Bizet, la Bacchanale de Jacques Ibert, belle occasion pour vous accueillir, pour savoir ce qui vous a conduit à cette carrière artistique, quelles ont été les étapes importantes. Dire aussi, et on y reviendra, qu'il y a un disque qui paraîtra bientôt avec des œuvres de Jean Genescu que vous avez enregistré avec l'ONF, ça sort le 12 avril. On en écoutera un petit passage en exclusivité. Alors, avec nous également ce soir, Michel Zlotowski, que je salue, qui va assurer la traduction de notre entretien. Même si vous comprenez très bien le français, il est encore plus simple pour vous de vous exprimer en anglais. Alors, dire pour commencer que vous êtes né en 1980 à Timișoara, en Roumanie. Vous êtes le petit dernier d'une fratrie de 10 enfants. Alors, il y avait de quoi former déjà un petit orchestre à la maison, d'autant que votre père était lui-même chef d'orchestre. Tous les enfants, et je crois les conjoints de vos frères et sœurs, jouent tous au moins d'un instrument. Alors, et si vous êtes né, bien sûr, à l'époque sous le régime de Nicolae Ceaușescu, dont on sait la violence, la dureté, toutes les horreurs, il y a aussi un bon côté que vous retenez, l'enseignement du solfège, de l'harmonie, du chant et d'un instrument au sein de l'établissement scolaire dès la maternelle. Alors, vous étiez peut-être pas très riche, vous étiez coupé du monde, mais vous avez eu un accès immédiat à la musique.
Yes, I consider myself actually quite lucky.
And je me considère comme chanceux. Ça m'a pris longtemps d'apprécier le fait que j'étais né en Roumanie dans les années 80, parce que j'ai toujours cherché à regarder dans la vie qu'est-ce qui apportait du bien. Et dans ce système, oui, c'était brutal, c'était politiquement très très difficile, horrible, mais la chose que ce régime a faite, c'est qu'il a donné une énorme place à l'éducation, sur une éducation qui m'a préparé pour la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est très difficile pour moi de ne pas avoir de la gratitude pour cette éducation que j'ai reçue. Et comme moi, il y a beaucoup de musiciens qui viennent de l'Europe orientale, de l'Europe de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, qui ont eu l'expérience du même système qui les ont préparés véritablement pour une vie en musique qui est très intense.
Et cette place de petit dernier, est-ce que vous pensez qu'elle a une importance dans votre parcours ?
Well, I think I can only justify, and I remember in my childhood thinking.
Mais je ne peux que justifier le fait que je me souviens de mon enfance. J'étais entouré de chaos parce qu'il y avait toujours des gens plus âgés que moi qui prenaient des décisions, et il y avait toujours quelque chose qui se produisait. Et véritablement, au milieu du chaos, il y a cette sensation où je me sens à l'aise. C'est vraiment qui m'aide beaucoup en tant que chef d'orchestre. Ça m'aide à me calmer et de rester calme au milieu du chaos. Je pense que ça a à voir avec le fait d'être le petit dernier. Mais je sais également que travailler vraiment très très dur pour avoir à prouver qui je suis, c'est un peu un cliché, mais bon, c'est la vérité dans mon cas. Parce que moi, j'ai dû véritablement me confronter à mes frères, mes sœurs, mon père et à leurs attentes.
Alors, votre premier instrument, c'est le piano, que vous aimez énormément, Christian Matscherarou, mais votre père, lui, pensait à l'avenir et vous a dit s'il faut partir un jour, ça va être quand même plus simple d'emporter un violon avec toi, mon fils. C'est plus facile à transporter. Mais pour vous, abandonner le piano, ça a été difficile.
Oui, au départ, c'était très dur de laisser tomber le piano. C'est pour ça que je suis devenu chef d'orchestre plus tard. J'aimais la multitude des harmonies qui peuvent se combiner et pouvoir créer cet univers total. Mais j'ai commencé à aimer le violon dès que j'ai pu avoir un bon son. Donc ça m'a pris 3 ou 4 ans avant de pouvoir véritablement jouer bien au violon. Et je suis tombé amoureux du violon et j'en ai eu tellement que j'étais obsédé par ce petit enregistrement sur cassette avec Anne-Sophie Mutter qui jouait Pablo de Sarasate et la méditation de Thaïs. Et puis j'écoutais ça aussi sans cesse et à nouveau et à nouveau. Et quand je l'ai rencontrée finalement, que j'étais sur scène avec elle comme chef d'orchestre, moi, et ben c'était comme vraiment, ça fermait un très très grand cercle.
Alors, petit souvenir d'enfance. Ça, c'était un extrait de cette fameuse cassette dont vous parliez à l'instant, Christian Matscherarou. Évidemment, tout ça était prévu entre nous. Non, vous étiez surpris d'entendre cette musique tout d'un coup arriver. Mais c'est vrai que quand vous avez... c'était en dirigeant le New Japan Philharmonic en 2020, pour l'année Beethoven, que vous avez été à la direction d'un orchestre. Et il y avait Anne-Sophie Mutter. Vous lui avez raconté ça, c'est que vous écoutiez la cassette, petit.
Yes, I worked with Anne-Sophie.
Oui, j'ai travaillé avec Anne-Sophie plusieurs années depuis. Je lui ai raconté l'histoire, elle a trouvé que c'était merveilleux. Mais il y a une autre histoire que j'ai jamais racontée au sujet de cette histoire, qui est intéressante. Ma femme m'a demandé, elle a dit que je devrais raconter cette histoire, parce que le problème c'était que moi je jouais à cette fantaisie, la fantaisie de Carmen, et je voulais jouer avec un orchestre, avec l'orchestre de l'école. Mais j'avais pas la partition. Et j'ai écrit à Deutsche Grammophon. Je leur ai écrit une lettre. Est-ce que, s'il vous plaît, je pourrais avoir la musique? Je ne sais pas comment trouver la partition. J'ai pas reçu de réponse, évidemment. Et j'ai écouté l'enregistrement. Et j'ai pris sous dictée les notes. Et j'ai réécrit toute la musique à la main pour que je puisse la jouer avec un orchestre. Et vraiment, c'est vraiment, j'étais très très dévoué, dédié à cette musique.
Ah, sacrée performance, en effet. Alors, ensuite, Christian Matscherarou, vous avez remporté plusieurs années de suite le premier prix des Olympiades de violon en Roumanie. Et puis, à 17 ans, c'est le départ pour les États-Unis pour intégrer l'Interlochen Arts Academy dans le Michigan pour continuer à étudier le violon. Et c'est là que vous jouez la 11e symphonie de Shostakovich sous la direction de Larry Rachleff, qui nous a quittés, hélas, en août 2022. Mais alors, c'est plus qu'une rencontre, c'est vraiment une révélation. Vous voulez devenir chef d'orchestre. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là?
C'était
vraiment une expérience qui a changé ma vie, d'être sur scène. Je me souviens, à la fin du concert, lorsque j'ai terminé, j'ai posé mon violon. J'étais dans l'orchestre qu'il conduisait. J'ai posé mon violon et je n'avais jamais senti tellement vidé de toute énergie. Je n'avais plus rien. Et ça m'a pris 3 à 4 jours avant de pouvoir vraiment recommencer à me sentir comme si j'étais rempli d'énergie à nouveau. Et c'était le pouvoir qu'il avait sur les gens avec lesquels il travaillait. Il avait cet incroyable magnétisme pour vous inspirer à donner absolument tout. Et c'est vraiment ce qui m'a attiré à conduire les orchestres. Et vraiment, il faisait sortir le meilleur des gens d'une manière vraiment qui vous submergeait. Et la quantité d'énergie qui venait vers vous était vraiment renversante. Malheureusement, oui, il nous a quittés. Et je pense à lui tellement souvent, et j'étais très heureux d'être près de lui pendant 8 années. J'étais son assistant, il a été mon mentor. C'est la façon dont la musique doit être apprise. Vous ne pouvez pas apprendre la musique à partir d'un livre. Oui, il y a des éléments que l'on peut avoir, mais en tant qu'artiste, vous devez être proche de quelqu'un qui le fait, qui la joue, afin de pouvoir voler. Vous ne prenez pas, vous volez tout.
Alors avant de suivre son enseignement, celui de Larry Rachleff, d'abord il vous dit, termine tes études de violon, donc ce que vous faites à Miami, Bachelor of Music, Master, et puis vous devenez le plus jeune premier violon du Miami Symphony Orchestra. Vous avez 19 ans à ce moment-là, Christian Maciaralu, et votre formation achevée, vous retournez voir donc Larry Rachleff, qui vous avait promis de vous prendre si vous finissiez votre formation. Il le fait. Vous entrez à l'université Rice à Houston, Texas, où il enseigne la direction d'orchestre. Alors, avant de parler de son enseignement, on va écouter cet extrait. On va entendre Larry Rachleff. C'est un entretien qui date de 2013.
The most successful orchestras, I believe, professional orchestras, are doing that in their communities. They're finding the symbiosis.
Les orchestres professionnels qui ont le plus de succès sont impliqués dans leur communauté. Ils trouvent une symbiose entre les musiciens, les artistes et la communauté, le public. Aujourd'hui, on ne peut plus juste avoir un orchestre qui joue bien. Il faut jouer bien, mais aussi parler. On doit être capable de s'asseoir en face de n'importe qui et lui raconter le morceau qu'on va jouer. Il faut aussi s'intéresser à l'environnement de la ville dans laquelle on travaille. Je suis optimiste. Certains endroits traversent de grandes difficultés. C'est très triste et ça nous blesse tous. Mais c'est aussi une opportunité pour se réinventer et réévaluer ce dont chaque communauté a besoin. Un orchestre professionnel existe pour une seule raison. Il n'existe pas pour les musiciens ou pour le chef d'orchestre. Il existe pour la communauté dans laquelle il s'est établi.
Alors on comprend bien, en écoutant Larry Rachleff, que vous avez appris auprès de lui, pas seulement la technique, Christian Maciaralu, mais une philosophie. Ouais. Qu'est-ce qui reste de cet enseignement? À quoi vous pensez encore de...
C'est tout à fait vrai. Il m'a appris tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le chef d'orchestre, mais avec la philosophie de diriger. Et il y a eu un autre professeur, mon professeur de violon, Sergio Luca, qui était très important pour moi. Lui aussi a défini ma vision du rôle que l'art de la musique a au sein de la société. Chaque jour, quand j'allais à son bureau pour une leçon ou pour une rencontre, au-dessus de son bureau, il y avait une citation de George Enesco. Et la citation disait, dans les domaines de l'art, de la littérature et de la musique, rien n'est à vous jusqu'à ce que vous le donniez. Et ma compréhension de cette citation, c'était que, au moment où les notes et la musique deviennent de l'art, c'est le moment où vous les partagez avec le public. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important de l'avoir de la musique qui est vraiment jouée encore et encore en direct devant un public. Bien sûr, les enregistrements, c'est l'image d'un moment dans le temps. Mais la recréation de la musique signifie que on maintient l'art et le concept de l'art vivant. C'est la raison pour laquelle les concerts sont tellement importants. Et pour moi, c'est le but ultime, c'est de partager la musique pour la transformer en art, de notes à art.
Alors, avant d'en venir à l'Orchestre National de France, je vais donner quelques repères pour nos auditrices et auditeurs, pour dire qu'en 2011, Christian Bacellaro, vous êtes devenu assistant à l'Orchestre de Philadelphie, après chef associé, chef invité. Entre-temps, on vous a aussi confié la suppléance de Pierre Boulez avec le Chicago Symphony Orchestra. C'est également en 2012 que vous recevez le prix Solti Emerging Conductor Award. C'est pour les jeunes chefs d'orchestre. 2 ans après, c'est le prix Solti Conducting Award tout court pour les meilleurs chefs d'orchestre. 2017, vous dirigez l'Orchestre Symphonique du VDR de Cologne, l'Orchestre de Radio, dont vous devenez aussi le chef principal à temps plein en 2018. 2019, première direction d'opéra avec l'Orchestre Symphonique de Houston. C'est Don Giovanni, ce qui n'est pas rien pour commencer. Vous avez dirigé évidemment de nombreuses phalanges au fil des années, un peu partout dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2018 quand vous dirigez pour la première fois les musiciens de l'Orchestre National de France? C'était le Festival d'automne, et c'était un programme d'œuvres du XXe siècle. Quel souvenir vous avez de cette première fois?
Je ne peux pas oublier, je n'oublierai jamais la dixième de Mahler, l'Adagio, parce que c'est ce qui terminait le concert. Et pour moi, pendant les répétitions, c'est très très difficile de véritablement, avant de vraiment connaître un orchestre, c'est difficile de savoir ce qui va se passer pendant le concert. Même chose pour le chef d'orchestre. Vous savez, l'orchestre peut espérer quelque chose, mais pendant le concert, c'est là que ça se produit. C'est ça qui est important. La musique était très complexe, très compliquée, on a répété. Mais quand on est arrivé au concert, quand on est arrivé à la dixième de Mahler, c'est un orchestre dont je me souviens, j'ai pensé, oui, ça c'est un son vivant. Et le son était tellement vibrant, beau, extrêmement riche, chaud, et je me suis dit, waouh, j'ai jamais rencontré quelque chose comme ça précédemment. Et je suis tombé amoureux instantanément avec l'orchestre.
Je crois que l'histoire d'amour était des deux côtés, hein. Michel Aurier, qui est directeur de la musique ici à Radio France, dit que les musiciens de l'ONF ont été fascinés par ce travail avec vous, à tel point que un autre concert a été organisé très rapidement en dehors de la saison pour voir si c'était juste une fois ou si il y avait une alchimie vraiment qui fonctionnait. Alors là, on était dans le grand répertoire. Ce deuxième concert, du coup, il était un peu particulier parce que là, il allait se jouer la suite.
Oui, l'orchestre m'a demandé de revenir et m'a dit, écoutez, on voudrait que vous dirigiez de la musique française, vraie. D'accord, Ravel, la valse, pour moi ça c'est vraiment une prise de position concernant le répertoire français. Et quand je suis arrivé, je me souviens, la première répétition, bien sûr, la valse, c'est très célèbre aussi parce que il y a tellement de traditions à ce sujet, tellement de choses que les différents chefs d'orchestre ont faites. Et j'ai apprécié ça beaucoup. J'aime beaucoup la tradition, j'essaie de la comprendre parce que ça parle d'une époque. Mais pour moi, la meilleure interprétation d'aujourd'hui, et ce que moi j'aimerais être connu pour cela, c'est pas ma version de Ravel, mais autant que Ravel peut être, je reviens toujours vers le compositeur et j'essaie d'éliminer les commentaires des autres au sujet de ce compositeur et vraiment que le compositeur soit le seul qui soit présenté ou représenté. J'aimerais pas que mon Ravel sonne comme Debussy parce que vraiment, non. Et c'est la raison pour laquelle quand j'étais pendant les répétitions avec la valse, j'ai commencé à éliminer tout cela. Non, Ravel, il ne l'a pas écrit ici, il l'a écrit là. Et donc, j'ai commencé à justifier à l'orchestre les décisions. Et au bout de 90 minutes de répétition, pour une pièce de 10 minutes, c'est pas tellement long, la valse. Après 90 minutes, on a terminé la répétition et les artistes de l'orchestre sont venus me dire « Ah oui, on veut travailler avec vous le répertoire français, c'est ça qu'on veut ».
Alors, ils ont travaillé le répertoire français, ils continuent, mais bien d'autres répertoires encore. C'est en septembre 2020 que vous avez pris vos fonctions de directeur musical de l'ONF. Et on va vous écouter cette année-là diriger l'Orchestre National de France, donc dans l'Adagio pour cordes de Samuel Barber. Mais peut-être que vous pouvez nous dire d'abord quelques mots, Christiane Maceralo, sur cette œuvre-là et sur un lien peut-être particulier que vous avez avec elle.
Oui, by Barber.
L'Adagio de Barber, c'est une composition qui a transcendé son but, le but que Barber avait, qui est simplement un mouvement pour son quartet à cordes. Il l'a transformé pour un orchestre à cordes. Mais c'était une musique est tellement émouvante que ça a été utilisé dans tellement de films et c'est utilisé dans la vie quotidienne pour un moment triste ou un moment de réflexion. Et je l'ai fait principalement en Amérique avec l'Orchestre de Philadelphie. Je l'ai dirigé une centaine de fois. Et je me souviens, chaque année, en janvier, il y a la journée de Martin Luther King. Cette commémoration de Martin Luther King et pour cette performance, chaque année à Philadelphie, on mettait ensemble l'Adagio pour cordes de Barber, et il y a donc cette prise de parole par Martin Luther King qui est extrêmement puissante, et le crescendo dans la pièce de Barber est vraiment en parallèle avec ce que dit Martin Luther King. Et Martin Luther King dit « Libre, enfin libre ». Et moi, je ne peux pas diriger cette musique ou l'écouter sans entendre ces paroles qui ne sont pas simplement quelque chose qui dit au sujet des gens qui ont été opprimés par un système politique ou social, mais qui a à voir avec moi, mon artiste qui arrive à ce moment-là, parce que pour moi, c'est ce que la musique m'a fait. M'a donné la liberté. Ça m'a permis d'aller au-delà de ce que je pouvais imaginer être possible. Jusqu'à ce jour, quand je suis sur le podium avec la baguette et je conduis, eh bien, c'est la liberté absolue, parce que rien d'autre n'a d'importance.
Alors, on va avoir le plaisir d'entendre dans son intégralité cet Adagio pour cordes de Samuel Barber interprété par l'Orchestre National de France que vous dirigez ici, Christiane Maceralo. Thank you. L'Adagio de Samuel Barber, interprété par l'Orchestre National de France et dirigé par notre invité ce soir, Christiane Machelarus, était en public, ici, à l'auditorium de la Maison de la Radio. C'était en juillet 2020. Alors, vous êtes depuis un certain temps et pour encore, j'espère, longtemps directeur musical de cette ONF, gardons son petit nom. Alors, il y a bien sûr la question de l'ADN, de ce qu'est cet orchestre, de sa longue histoire, 90 ans, mais ce que vous apportez, vous, comment vous enrichissez aussi cet orchestre? Comment est-ce que vous appréhendez cette question-là?
Bien sûr, un orchestre qui est là depuis 90 ans, c'est un orchestre qui a développé une identité forte. Pour moi, l'identité d'un orchestre a tellement à voir avec l'approche qu'a l'orchestre dans le processus de faire de la musique. Ça doit être avec un peu de légèreté, mais aussi être à l'aise l'un avec l'autre pour véritablement découvrir. Il faut être suffisamment cool, avec suffisamment d'intensité pour véritablement découvrir les grands moments. Et une chose, en fait, c'est surprenant pour beaucoup de chefs d'orchestre quand ils arrivent devant un orchestre comme l'ONF, c'est de découvrir un orchestre qui est, disons, très relax pendant les répétitions, mais pendant le concert, ça devient un orchestre qui s'éveille, vivant. Et c'est vraiment quelque chose qui montre que l'orchestre est mûr, mature, et sûr de ses capacités. J'aime beaucoup entendre pendant un concert des choses que j'avais jamais entendues avant, la façon dont les musiciens façonnent telle ou telle note. Et j'ai changé mon style de travail pour pouvoir être en phase avec l'identité de l'orchestre, parce que j'aime bien penser aux répétitions au moment où on établit les règles du jeu. Et une fois qu'on a les règles du jeu, alors pendant le concert, on peut improviser. On joue le jeu, pas simplement parce qu'on respecte ce qu'on a décidé de faire, mais on connaît les paramètres de là où on doit se rencontrer. Et entre deux, il y a cette liberté qui est tellement nécessaire pour les musiciens et pour les artistes.
Alors, ce que vous apportez, bien sûr, Christiane Machelarus, c'est ce que vous êtes, un chef d'orchestre roumain, sensible à sa propre culture. Alors, il faut dire qu'en janvier 2019, à l'occasion de la commémoration du centenaire de votre pays, vous avez dirigé l'Orchestre National de Roumanie pour sa première tournée aux États-Unis. En octobre 21, vous êtes devenu le directeur artistique du Festival George Enescu à Bucarest, et de George Enescu, parlons-en, et de sa musique, puisqu'il y a un disque qui va sortir le 12 avril qui lui est consacré chez Deutsche Grammophon, que vous dirigez avec l'ONF. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous à communiquer aux musiciens de l'Orchestre National de France sur ce qui vous semble être l'âme de la musique de George Enescu?
Vous savez, je suis tombé amoureux de la musique d'Enescu sans aucune relation avec le fait que nous étions tous les deux roumains. Sa musique est tellement profonde, il parle de l'origine de l'humanité, de l'origine de la civilisation, dans la façon dont il traite le concept du folklore. Sa musique n'est pas simplement inspirée par le folklore roumain, mais par le folklore mondial. Il prend ses idées, tente de les développer, les change. Il utilise très très peu de motifs musicaux, mais ils sont tellement changés, manipulés, renversés, inversés. Quand vous commencez à les regarder, je commence à imaginer, à regarder à travers véritablement un sablier et regarder l'histoire de l'humanité. Aucun autre compositeur ne fait ça pour moi. C'est tellement complexe. Et pour expliquer cela à l'orchestre, je me souviens leur raconter, on enregistrait la seconde symphonie. Il y a un moment dans le troisième mouvement où ça vient de très très loin, de l'arrière de la scène. Il y a ces percussions qui viennent de très très loin. Et je disais à l'orchestre, attendez, imaginez véritablement ça. Il faut aller dans les vieilles forêts roumaines, être vraiment à l'orée du bois. Et c'est là que les nuages s'élèvent le matin. Et c'est là que vous entendez les sons. Mais ce n'est pas un son qui existe, c'est un son que les peuples anciens jouaient dans leurs rituels. Et peu à peu, on entend les animaux, les insectes. Et c'est ainsi qu'Enesco a construit sa symphonie. Et pour moi, c'est véritablement la meilleure représentation de ce qu'un compositeur peut faire quand il prend tout de la vie autour de lui et l'écrit sur du papier. Et puis après, c'est mon boulot de le voir et de recréer ce mouvement qu'il a imaginé.
Alors là encore, on n'a pas préparé l'émission ensemble, mais on va écouter le troisième mouvement de la symphonie numéro 2 de Georges Enescu.
Thank you.
C'était un extrait de ce disque Enesco, apparaître le 12 avril, enregistré par l'Orchestre National de France, dirigé par Christian Macellaro. Il y a ces trois symphonies achevées, la quatrième est inachevée, deux rhapsodies roumaines qui ouvrent ce disque chez Deutsche Grammophon. On continue à célébrer l'anniversaire de l'Orchestre National de France, 90 ans. Concert à nouveau ce samedi soir ici à la Maison de la Radio et de la Musique. Alors, un concert avec un programme qui couvre 100 années, en fait. On parle de la Symphonie en ut de Bizet, écrite en 1855, et on va jusqu'à Jacques Ibert et Messiaen, 1956, avec au milieu Ravel, le tombeau de Couperin. Finir par une bacchanale, puisqu'on va finir notre entretien là-dessus, c'est pour mieux prolonger l'anniversaire, la soirée.
Yes, but I also wanted to show
oui, je voulais montrer l'incroyable virtuosité de l'orchestre, parce que toute l'idée de créer ces cinq programmes pour l'Orchestre National de France, pour le jouer, c'est vraiment montrer les grands experts que sont les artistes, les musiciens de l'ONF, des artistes vivants qui produisent vraiment du son français et le son culturel français. C'est pour ça que dans ce concert, c'est tellement varié. Vous savez, la symphonie de Bizet, c'est comme un diamant. C'est parfait, c'est tellement beau. Et puis, le Messiaen est vraiment un type complètement différent de spectre, un monde totalement différent. L'idée de tellement d'oiseaux qui sont dans une polyphonie conversationnelle, c'est inouï. Et nous avons le tombeau de Couperin, de Ravel, qui est véritablement, c'est un autre diamant. Et j'ai pris la bacchanale d'Ibert parce que tout le monde connaît la bacchanale de Saint-Saëns, de Samson et Dalila, mais la bacchanale d'Ibert est plus intéressante pour moi parce que il y a cette façon dont il utilise le côté sarcastique de montrer son style. Et c'est beaucoup plus proche de notre époque. C'est pour ça qu'on conclut avec cette grande célébration.
Ça, ce sera le concert de ce samedi soir dans l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Un concert qui sera diffusé le 2 mai sur France Musique. L'Orchestre National de France continue à fêter ses 90 ans. Il y a ce disque le 12 avril consacré à Georges Enescu. Il me reste à remercier Michel Zotowski pour la traduction
merci
de cet entretien. Et bon, merci Christian Macellaro d'avoir été notre invité. Merci.
Merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Imaginez un instant Françoise Hardy, période yéyé, versée dans la dream pop et le psychédélisme bon vivant. Vous obtiendrez quelque chose qui ressemble à la musique de Allo Maude, le projet de Maude Nadal qui fait jeu, set et match dans son deuxième album intitulé Celebrate. En 12 chansons produites entre Paris et Los Angeles, la musicienne alterne entre français et anglais dans un mouvement de va-et-vient entre l'intérieur de la rêverie et l'extérieur de l'altérité. Ses qualités de parolière sont reconnues par le regretté Christophe, qui avait fait appel à ses services pour son dernier album studio Les Vestiges du Chaos, mais elle est toujours bien entourée et elle a glissé quelques invitations bien senties sur Celebrate, l'une à l'inévitable Fabien Berger, l'autre à Greg Saunier, le batteur du génial groupe Dear Ouf. Mais c'est seul que nous vous proposons de l'entendre. Voici À te voir, notre son du jour.
À te voir t'amuser de l'écume des rochers, y a de quoi tout quitter, venir te retrouver. Je dis vague, allez.
C'était À te voir de Allo Monde qui sera en concert au Point Éphémère à Paris le 30 mai prochain.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis devant l'Artothèque de Caen. L'Artothèque qui propose à ses adhérents d'emprunter pour 2 mois une estampe de Soulages ou une photo de Charles Frégé. Le choix est très large parmi les 4000 œuvres disponibles de près de 800 artistes. Alors des artothèques, il en existe 35 dans toute la France. Et pour un abonnement annuel modique, vous pouvez exposer une œuvre, une vraie, dans votre salon. C'est Yvan Poulain, le directeur de l'Artothèque de Caen, qui nous présente ces institutions mal connues du grand public, mais très séduisantes, il nous attend juste en haut de l'escalier.
L'Artothèque de Caen, c'est une artothèque qui a été créée en 1986. C'est au départ une initiative de la ville de Caen et elle va prendre très vite une autonomie en étant portée par un système associatif. Depuis 2013, on a investi ce bâtiment qui est un bâtiment patrimonial donc qui faisait partie de l'abbaye aux hommes ici à Caen et qui a été spécialement conçu, aménagé pour recevoir les activités de cette artothèque qui a, j'allais dire, 2 fonctions en elle. L'artothèque à proprement parler, donc avec une collection de 4000 œuvres qui est mise à la disposition des adhérents. Et puis, c'est aussi un centre d'art contemporain avec 2 espaces d'exposition. Et cette artothèque est assez dynamique puisque on fait à peu près entre 8000 et 8500 prêts d'œuvres par an. Donc ça vous donne un petit peu la quantité d'échanges et d'œuvres qui rentrent et qui sortent au sein de cette structure. Et on a à peu près 600 adhérents. Ça va de particuliers, mais aussi des écoles, des entreprises, des établissements publics. Donc une grande diversité là aussi d'établissements avec qui on travaille toute l'année. Dans cette artothèque, et comme dans les autres, l'activité d'exposition et la collection ne sont pas dissociées. Ce ne sont pas des entités qui sont côte à côte. Ce sont vraiment des entités qui travaillent ensemble, notamment pour nourrir des regardeurs qui vont être nos visiteurs, qui vont être nos emprunteurs. Et ici, vous verrez que c'est un lieu qui est très fréquenté, familial, où les gens n'hésitent pas à parler des œuvres, à exprimer des choses sur leur contenu. Donc ça, c'est vraiment une nature de public qui est très agréable et qui s'est construit au fil des années, justement par ce travail de prêt, par des activités d'atelier, de médiation, etc., qui complètent tout le panorama en termes de sensibilisation à la création contemporaine que l'on peut mener avec un outil exceptionnel qui est une collection et avec un travail de programmation par ailleurs et d'accompagnement des artistes contemporains qu'on accueille ici à l'Artothèque de Caen. Quoi. Voilà. Eh bien écoutez, on va aller voir cette exposition. Alors, où qu'on aille à l'Artothèque de Caen, on est obligé de traverser la collection. Donc ça, c'est d'ailleurs les architectes qui l'ont voulu comme ça, et c'est une excellente idée. Et en fait, elle se présente ici comme des réserves de musées ouvertes. C'est-à-dire qu'on a ici à peu près 40 de racks sur roulettes que les emprunteurs ou même les visiteurs peuvent tirer. Il n'y a pas de classement chez nous. Ce qui est privilégié toujours dans l'Artothèque, c'est la relation à l'œuvre, c'est la rencontre. On tire un panneau, il y a ici X œuvres qui sont présentées, à peu près une bonne dizaine par grille, et à un moment, il se passe quelque chose ou pas. Il y a une attention, il y a un éveil particulier, ce qui explique par exemple qu'à Caen, on n'a pas de base de données numérique, on ne fait pas de choix à distance des œuvres, on vient sur place, on vient les voir, on essaie de qu'il se passe une alchimie sur l'instant T, et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est toujours un conciliabule, puisque parfois... les gens viennent en famille. Parfois, il y a des abonnements pour les parents, pour les enfants. Et puis, on discute. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on ne peut pas faire dans un musée, par exemple. C'est qu'une fois que l'œuvre, elle nous plaît, on la prend à pleine main. Et puis, on la décroche. Ah, celle-ci ne veut pas se défaire, c'est ça ? Voilà. On la prend, on la décroche. on l'emmène sur la base, elle est emballée et on repart avec et on peut vivre du coup longtemps avec. Ça, c'est un rapport aussi qui est tout à fait exceptionnel dans les artothèques, c'est que, comment dire, il y a une intimité qui se crée à l'œuvre d'art. Je serais presque dire qu'il y a un rapport de domestication avec l'œuvre d'art, hein, à prendre dans les deux sens du terme, hein, dans cette relation à l'espace domestique, mais aussi dans une œuvre à laquelle on donne du temps et de l'attention. Une attention longue, 2 mois, c'est déjà pas mal pour la regarder et l'apprécier, la comprendre, donc dans son espace domestique.
Bonjour madame.
Bonjour.
On se croise ici dans le hall de l'Artothèque. Je vous vois les bras chargés. Vous avez 3 œuvres avec vous?
Oui, donc c'est pour un établissement scolaire dans lequel j'exerce, donc pour le cours d'art plastique en particulier.
Et donc vous venez souvent? Vous en empruntez régulièrement?
J'emprunte tous les ans, je renouvelle l'abonnement. En fait, ce que je souhaite à travers cet abonnement, c'est faire en sorte que les élèves accèdent directement aux œuvres et que j'arrive par la même à les capter directement, c'est-à-dire qu'on les voit vraiment de près et on les étudie, on échange autour de ces œuvres-là. Donc c'est important qu'ils reçoivent finalement l'objet artistique.
Oui, des originaux, quoi.
Réel, dans sa matérialité, qu'ils l'appréhendent vraiment de près, c'est-à-dire qu'ils posent un regard, mais pas simplement un regard au passage comme ça, rapide.
Quand vous en parlez, on entend bien qu'en fait une artothèque, c'est un vrai service public, quoi.
Oui, oui. Ah oui, tout à fait. C'est un moment important, en fait, d'échange, de questionnement. Et puis je leur dis bien que l'art pose des questions et n'apporte pas de réponse. Alors c'est surtout les questions qui nous intéressent à ce moment-là. Quel type de questions? Et moi, je les guide. Et finalement, je découvre les œuvres en même temps que...
Je vais vous laisser repartir avec vos, oui, vos trésors du jour. Merci beaucoup, madame.
Au revoir.
Au revoir.
Je m'appelle Marc Vaudet, je suis le chef du pôle création au Centre National des Arts Plastiques, qui est un établissement public du ministère de la Culture et qui a pour vocation à la fois de conserver les œuvres acquises par l'État et d'apporter un soutien particulier aux professionnels des arts visuels, que ce soit les artistes, mais aussi les galeries, les producteurs de vidéos et tous les autres professionnels qui contribuent à diffuser les œuvres d'art.
Alors ici, on se retrouve, on est à Caen, à l'Artothèque. Quel est le lien, justement, entre le CNAP et l'Artothèque?
Alors, l'Artothèque accueille une commande qui a été réalisée en 2023. Cette commande a associé l'Association des Artothèques et le Centre National des Arts Plastiques et a permis à 12 artistes de proposer une estampe sur la thématique des temps changeants.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler les différences entre une artothèque, un FRAC et votre lien avec tout ça, vous au CNAP?
Alors, les FRAC sont des institutions qui réunissent une collection régionale. Le Centre National des Arts Plastiques, lui, a une collection nationale. Notre vocation est aussi de pouvoir diffuser ces œuvres, soit vers des musées, soit dans des établissements publics, comme des ministères, comme... partout on peut accrocher des œuvres qui sont destinées à être montrées au public. Le CNAP collectionne depuis 1791 et a dans sa collection plus de 100 000 œuvres.
Mais elles sont où ces œuvres?
Alors elles sont pour plus de 70% d'entre elles déposées ou prêtées dans des expositions ou dans des lieux d'exposition.
Merci beaucoup. L'artothèque de Caen, comme toutes les artothèques du réseau, permet à chacun de cohabiter pour un temps avec une œuvre. En accompagnant les adhérents dans leur choix, en misant sur la confiance, l'artothèque contribue à lier
le public et les artistes, permet grâce au temps long d'habituer nos regards et autorise tous les coups de foudre. Bref, une belle mission de service public.
Merci Marie Sorbier, on vous retrouve demain au Havre pour une visite de la ville à l'occasion des 150 ans de la naissance d'Auguste Perret. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roubertier.